RMC Intégral Tour, Christophe Sessieux.
56 km de l'arrivée finale de ce Tour de France 2014. Le peloton qui est entré dans Paris et qui ne va pas tarder à faire son premier passage sur les Champs-Élysées dans quelques instants. On va retrouver la moto RMC, Georges Quirino, qui se trouve dans Paris. Ah, ça fait du bien de voir Paname, mon petit Georges.
Eh oui, on y arrive enfin au bout de ce Tour de France après 21 étapes. On est dans un final inédit puisque on passe devant la pyramide du Louvre. Avant, on avait l'habitude de passer sous un tunnel, sous le jardin des Tuileries. Là, on est passé devant la pyramide et derrière nous, voilà le peloton emmené par la formation Astana du maillot jaune. On est sur la rue de Rivoli. C'est barriéré à gauche et à droite de la route. Une foule considérable, toujours impressionnante. Année après année, il y a énormément de Norvégiens. Là sur notre gauche, le virage devant la statue de la Jeanne d'Arc. Ils encouragent le peloton, tous les appareils photos sont sortis, tous les smartphones sont sortis également pour immortaliser ce moment, une ambiance de stade de football. Je ne sais pas si vous entendez la ferveur derrière nous, mais c'est toujours un moment qui donne la chair de poule, un moment qui, on ne va pas le cacher, nous donne toujours un peu d'émotion. Quand on arrive au bout de 21 étapes, au bout de 3 semaines, ils vont passer une première fois sous cette flamme rouge, qui n'est pas la flamme rouge du dernier kilomètre pour l'instant, la grande roue à leur gauche sur cette rue de Rivoli. Il y a plusieurs rangées de supporters qui sont venus des drapeaux français, des drapeaux britanniques, des drapeaux sud-africains, des mains vertes, un drapeau kazakh à notre droite, le peloton en file indienne avec le maillot jaune dans la première position. On va un petit peu à gauche, on arrive sur la place de la Concorde, sous un ciel voilé, on voit la tour Eiffel au loin, les pavés sous les roues des coureurs désormais, ils voient l'obélisque à leur gauche, la fontaine, le jardin des Tuileries derrière eux, l'Assemblée nationale pour les 164 survivants de ce Tour de France, place de la Concorde. Ils y sont, ils vont se placer, les coureurs de l'équipe Astana, c'est la tradition, et bien pour que ce soit l'équipe du maillot jaune qui rentre en premier sur ces Champs-Élysées, le virage à droite, et voilà, ils y sont. Bienvenue messieurs sur les Champs-Élysées. Vous y êtes arrivés. La patrouille de France qui passe au-dessus de nous, au-dessus de l'Arc de Triomphe. La fumée, bleu, blanc, rouge, les tribunes. À droite, le monde incroyable sur ces champs. Fermé pour les survivants du Tour de France qui passe une première fois sous la ligne. Et pour le vainqueur du Tour, Vincenzo Nibali, ciel bleu, blanc, rouge pour le passage du Tour.
Voilà, effectivement, le peloton qui passe juste derrière le petit camion RMC, là, sous les vivats de la foule. C'est toujours un moment très sympa. Alors que la patrouille de France également survole les Champs-Élysées à l'instant même. Voilà, de belles images. C'est l'apothéose, c'est la fin de ce Tour de France. Vous entendez les avions qui passent à l'instant même au-dessus de notre petite tête. Voilà, avec trois couleurs du drapeau national. C'est toujours un beau moment, Fred. Hein, ça file des frissons, tout ça.
Oui, ça, exactement. C'est ce que j'étais en train de me dire. Il nous en faut peu pour avoir les poils qui se hérissent sur les bras. En l'occurrence, c'est pas peu du tout parce que c'est quand même phénoménal ce qu'ont accompli les 175 coureurs qui restent dans le peloton aujourd'hui à 54 km de l'arrivée.
Très bien, Pierre-Yves Leroux est avec le frère de l'un des héros de ce Tour de France, le frère de Thibaut Pinot.
Oui, exactement, Julien, et pour lui aussi, ça commence à s'accélérer, il y a des choses à faire, il faut aller voir du côté de l'arrivée. Julien, qu'est-ce qui va se passer dans les minutes qui viennent? Déjà une bonne info, le bus de l'équipe est arrivé finalement, au dernier moment.
C'est tout bon, le bus est arrivé, il y avait une petite panne au départ, on a eu peur qu'il ne soit pas ici, ça aurait été dommage, ça aurait pu gâcher un petit peu la fête, surtout se mettre à pleuvoir, mais c'est bon, le bus est là. J'espère que tout va bien se passer pour Arnaud aujourd'hui pour clôturer ce fantastique Tour de France.
Et oui, c'est ça l'objectif aussi de l'équipe, c'est d'être là présent au sprint pour Arnaud demain. Quelques infos sur Thibaut, comment il était ce matin, est-ce qu'il réalisait un petit peu plus? Parce que hier on lui disait, est-ce que tu te rends compte, tu es sur le podium? Et il disait non, je me rends pas compte pour le moment.
Non, il se rend pas vraiment compte, il se rend pas compte tout l'engouement qu'il y a autour de sa performance, autour de lui. Il comprend pas spécialement ça, la grandeur que ça prend. Et lui, ce qu'il a envie, c'est de prendre des vacances. Mais là, avec ce qu'il vient de faire, ça va être compliqué de pouvoir partir incognito. De partir à Cognito et profiter pleinement de ses vacances loin du monde du vélo, là ça va être compliqué.
C'est ça qui va être difficile à gérer. Il le disait hier, j'ai envie de garder ma petite vie, voilà, que ça change rien. Ça va être difficile quand même.
Ouais, ça va être compliqué. C'est vrai que déjà il y a 2 ans, après son premier Tour de France, sa vie avait quand même déjà un petit peu changé, sa carrière aussi. Là du coup ça va être un petit peu pareil, un cran plus haut. Donc il va falloir essayer de gérer ça, se servir de l'expérience d'il y a 2 ans pour essayer de gérer au mieux ce qui va arriver après ce Tour de France.
Merci beaucoup Julien. On vous laisse vivre les dernières minutes de ce Tour de France en compagnie de toute l'équipe et le staff de la FDJ qui est présent place de la Concorde et qui va se déplacer vers la ligne d'arrivée.
Très bien. De la place de la Concorde à la place de l'Étoile, le peloton du Tour de France qui s'enroule autour de l'Arc de Triomphe, Fred. C'est rare de voir cette image parce que habituellement le peloton tourne juste au-dessus
au pied de
l'Arc de Triomphe.
Devant l'Arc de Triomphe cette fois, comme l'an passé, il fait le tour, le grand tour. C'est très dégagé aujourd'hui, cet après-midi, la place de l'Étoile. C'est assez rare de voir une circulation aussi fluide à cet endroit. Sachez qu'à 52 km de l'arrivée, un homme a attaqué et c'est celui qui a multiplié les offensives sur ce tour. Un trentenaire, peut-être que Georges est avec...
Oui, exactement, Georges sur la moto RMC.
Exactement, on a vu Sylvain Chavanel sortir dès l'entrée sur les Champs-Elysées, attaquer, accélérer à l'avant de ce peloton avec son vélo orange, très encouragé évidemment par le public qui a reconnu celui qui est un des coureurs les plus populaires. Et derrière ça réagit, il y a plusieurs coureurs qui ont tenté de sortir, notamment on a vu Romain Feuillu, mais également Thomas Voeckler essayer de se mettre en évidence, Geraint Thomas également, le Britannique de Sky. Il y a beaucoup de mouvements comme d'habitude pour le premier passage sur ces Champs-Elysées. Sylvain Chavanel qui a toujours une petite avance sur le peloton.
Ouais, petite avance sur ce peloton. On a vu les Astana, Fred, en tête de peloton qui roulait.
Oui, qui maintiennent un rythme élevé, évidemment. On est passé sur les Champs-Élysées. La course s'est engagée. C'est le scénario classique au pied de la plus belle avenue du monde. Sylvain Chavanel a attaqué, lui qui a souvent, à plusieurs reprises, a profité de cette dernière étape du tour, cette traditionnelle, prestigieuse étape dans Paris. Sylvain Chavanel adore les coups de panache que Cyril Guimard n'apprécie pas forcément parce qu'ils ne sont pas donnés forcément à très bon escient. Sylvain Chavanel qu'on a vu cette année sur le Tour quelques jours après son sixième titre de champion de France de contre-la-montre, attaqué à plusieurs reprises mais jamais vraiment dans le coup pour la gagne de l'étape. Ça ressemblait plutôt à des échappées prétextes ou au moins à des échappées champ du cygne. Sylvain Chavanel qui en bas des Champs-Élysées dans le sens de la descente à un peu plus de 50 km de l'arrivée vient d'être repris par le peloton. Ça n'a pas duré longtemps, ça a duré un aller-retour sur les champs. Il s'est fait plaisir, le leader de la formation suisse IAM.
Cyril, à la différence des autres étapes, là les coureurs ont beaucoup de mal à s'échapper de ce peloton et les écarts ne sont jamais énormes, hein.
Oui, pour une raison très simple, c'est que cela roule très vite, contrairement à l'allure que nous avons eue depuis le départ et que Georges nous a parfaitement décrit. À partir du moment où on le rend sur le parcours, là tout le monde se lâche. Ce sont les premières attaques. La première attaque, on vient de la voir par Sylvain Chavanel. Mais surtout, il faut savoir que sur ces Champs-Élysées, on tourne pratiquement entre 50 et 52 de moyenne autour. Donc pour s'échapper, c'est très difficile. On arrive à prendre 50 mètres, 100 mètres, 15 secondes, 20 secondes si on est 7 ou 8. Mais la pression du peloton et des équipes de sprinters est telle que il est pratiquement impossible de réaliser suffisamment d'avance pour pouvoir aller jusqu'à la ligne et se disputer la victoire.
Très bien, il reste donc 49 km 400 à parcourir. Ça veut dire que le peloton en aura fini avec ce Tour de France dans une heure exactement, arrivée de cette 101e édition du Tour de France, la grande boucle 2014. 49 km et donc Sylvain Chavanel qui a été repris, Fred.
Oui, c'est Nelson Oliveira, le coureur de la formation Lamprey, qui emmène le peloton. Les coureurs que l'on n'a pas vu ont tout intérêt à se mettre en évidence sur cette dernière étape du Tour. Jérémy Roy vient de crever à l'arrière du peloton et un coureur de l'équipe Trek vient de sortir après le passage du tunnel sous le jardin des Tuileries. Il me semble que c'est un inoxydable, peut-être le vétéran de la formation Trek. C'est bien lui, Jens Voigt, qui est en train de prendre sa part de gloire, sa part de lumière à 49 km de l'arrivée. Un peu le même style de coureur que Sylvain Chavanel et avec une hargne assez incroyable. Il va entamer dans quelques instants le deuxième aller-retour sur les Champs-Élysées, passage devant la place de la Concorde dans quelques instants. Il est au bout de la rue de Rivoli, Jens Voigt, qui vient de prendre 50 mètres d'avance sur le peloton.
Lucho, pour son dernier tour, effectivement c'est son tour d'honneur là pour Jens Voigt. Lucho, est-ce que tu as déjà été échappé seul sur les Champs-Élysées dans Paris? Est-ce que ça t'est déjà arrivé?
Oui, j'ai même failli gagner.
Non, je rigole.
Non, non, bah attends, c'était, j'étais pas un coureur fait pour les critériums, donc
il m'est arrivé. C'est vrai que ça doit être sympa, mais ne serait-ce qu'un kilomètre,
ne serait-ce que d'arriver sur les champs, déjà, c'est extraordinaire pour un coureur du Tour, finir le Tour sur les champs, c'est magnifique. Après, si, j'ai essayé, j'ai tenté avec un petit groupe, on est sorti à plusieurs, c'est revenu, voilà, mais on a fait le show, quoi, mais je savais très bien que j'allais pas gagner sur les champs, mais de partir tout seul, c'était pas évident.
Très bien, la moto RMC, Georges Quirino qui se trouve à nouveau sur les Champs-Élysées pour la dernière fois.
Oui, pour un deuxième passage sur la ligne d'arrivée pour les coureurs avec Jens Voigt qui nous fait un tour d'honneur. On l'avait vu, il avait des fourmis dans les jambes hein, tout à l'heure. Il était présent aux avant-postes. Et bien là, il a les mains en bas du guidon. Il a une cinquantaine de mètres, 100 mètres d'avance sur le peloton en file indienne qui est pour l'instant toujours emmené par les coureurs de la formation Astana du maillot jaune. Ça veut dire que les équipes de sprinteurs n'ont pas encore pris la course en main pour ce deuxième passage. Jens Voigt tout en dehors, la gueule ouverte. Eh bien, pour se garder peut-être des images qu'il gardera toute sa vie, puisqu'il nous a dit que c'était son dernier tour. Mais peut-être qu'on le verra encore l'année prochaine. En tous les cas, pour l'instant, il est en tête pour ce passage à nouveau sur la ligne d'arrivée, ciel voilé au-dessus de nous et des vitesses en moto que, en temps normal, on ne pourrait pas atteindre si la circulation était autorisée.
Profite, Georges, parce que c'est ton dernier tour, hein. C'est ça, t'auras plus le droit de passer derrière, hein. Tu vas rentrer à la maison.
Oui, c'est ça.
Très bien.
Exactement, parce que les motos.
Son dernier tour des Champs-Élysées,
oui,
hein,
oui,
pas son
oui.
Dernier tour
non,
de France.
Il en est 4 ans, 4 ans de France.
Évidemment pas.
Il sera là encore dans les années 2050, notre ami Georgie. Je sais pas si Marco sera encore
si,
au volant de ça.
Celui
en 2050, tu crois qu'il sera encore là?
Celui qui fera tomber Marco, à mon avis, il est pas né.
Très bien, c'est l'heure de notre jeu Vision sur le Tour. Ce soir, nous vous offrons 5 paires de lunettes de soleil Tour de France. Pour gagner, il faut répondre correctement à la question que Luc Leblanc a travaillé depuis des heures. Là, je le sens bien préparé sa question.
Là, vous exagérez, les gars.
Alors, bon, il faut donc que tu poses ta question. Vas-y, pose-la.
C'est énorme. Vous êtes bête hein, quand même. Hein. J'ai oublié de dire ça.
Vas-y.
Ouais. Au cours de ce Tour de France, Luc Leblanc a-t-il quatre... Merci. Je vais pas le dire.
Vas-y, vas-y.
Si. Bon, au cours de ce Tour de France, Luc Leblanc a-t-il cassé la Lucho mobile?
Oh là là, ben oui, ça tout le monde le sait. Si vous pensez que la bonne réponse est oui, vous envoyez A par SMS au 732-16. Et si vous pensez que la bonne réponse est non, vous envoyez B par SMS au 732-16. Cette pauvre Lucho mobile transformée en Lucho mobilette. 46 km de sang de l'arrivée. Un seul homme en tête, Jens Voigt, qui compte 4 secondes d'avance sur le peloton. On se retrouve dans un instant pour la suite de cette étape. On sera avec une jolie fille. Il y a plein de jolies filles ici à l'arrivée sur les Champs-Élysées. Les fiancées et les épouses des coureurs qui sont là pour encourager leurs héros qui ont fait 3 semaines comme ça, à fond, à fond. On sera avec la compagne de Brian Coquart dans un instant.
RMC Intégral Tour. RMC Intégral Tour. Christophe Sessieux.
Et il reste encore un peu moins de 44 km à parcourir sur ce Tour de France 2014. Et un petit peu moins pour Georges Quirino sur la moto RMC puisque c'est le dernier tour. Donc, dernière image radiophonique de ce Tour de France. Georges sur la moto.
Dans quelques instants, Christophe, parce que là, on va passer sous le tunnel des Tuileries. On va nous faire
une chute
dans le peloton, il me semble, derrière.
Oui, chute dans le peloton, le champion de Suisse,
oui, Martin Elbiger. Jean-Christophe Perrault vient de tomber. Jean-Christophe Perrault, c'est lui qui tombe en premier sur un passage piéton sur la place de la Concorde. On le voyait assez tendu ces derniers kilomètres. Jean-Christophe Perrault, deuxième du classement général, qui s'est fait mal en tombant dans un virage à gauche. Il a dû freiner de l'avant en passant sur une bande blanche. Jean-Christophe Perrault, attendu par deux équipiers de la formation AG2R La Mondiale. On est à 42 km de l'arrivée et le grand problème pour Jean-Christophe Perrault, c'est que la course est lancée sur les Champs-Élysées et que personne ne l'attendra. Attention, alerte rouge chez AG2R La Mondiale. Le podium est peut-être en train de s'envoler pour Jean-Christophe Perrault. Oui, il compte un matelas, mais que ça va vite à l'avant de la course avec des coureurs échappés. Van Avermaet, Sven Tuft, Jens Voigt, on voit Geraint Thomas également. Attention, attention, il faut vite réagir.
32 secondes d'écart, hein. C'est donc l'écart entre Jean-Christophe Perrault et Thibaut Pinot au classement général. Cyril, que peut-il se passer? La course est effectivement à débuter. Maintenant, on ne va pas attendre Jean-Christophe Perrault.
Non, la course est lancée. On n'attendra pas Jean-Christophe Perrault. Il reste 42 kilomètres. Je pense que la totalité ou pratiquement la totalité de l'équipe, 6 ou 7 coureurs, vont l'attendre. Il n'y aura pas barrage au niveau des directeurs sportifs. Donc logiquement, à moins qu'il ait perdu trop de temps, temps et qu'il ne soit plus dans l'abri des voitures, il devrait réussir logiquement à rentrer. Mais pour information, il faut savoir que on tourne sur ce circuit là des Champs-Élysées, on tourne en 52,5 de moyenne, c'est-à-dire que pour rentrer, il fera tourner à plus de 55.
Et oui, c'est compliqué, ça va être très compliqué, fin de tour compliqué pour Jean-Christophe Perron, on le rappelle, qui a donc chuté au bas des Champs-Élysées, qui semble-t-il s'est fait quand même assez mal. Il a réussi à reprendre son vélo et à reprendre la course, mais Lucho, on le dit, on le répète, le Tour de France n'est pas terminé tant que la ligne d'arrivée finale n'est pas franchie.
Ah non, 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 c'est vrai qu'il faut faire très très attention, surtout sur les champs maintenant, ça roule complètement à bloc, et là le fait que Jean-Christophe ait chuté, une petite maladresse sur un virage, sur un passage clouté, malheureusement.
La moto RMC, Georges.
Oui, on est arrêté sur la place de la Concorde, une dizaine de coureurs à l'avant, derrière ça va très vite. Il y a Astana qui emmène le peloton, on voit Thomas Voeckler en deuxième position, le peloton très étiré, on va chercher Jean-Christophe Perrault du regard dans les positions. Thibaut Pinot est bien là pour l'instant, dans les dernières positions de ce peloton, et tout au bout pour l'instant on n'a pas vu Jean-Christophe Perrault. On voit les véhicules suiveurs qui sont derrière, les directeurs sportifs, et Jean-Christophe Perrault, voilà, qui arrive maintenant à la place de la Concorde avec plusieurs de ses coéquipiers autour de lui. Jean-Christophe Perrault qui est avec 1, 2, 3, 4, 4 coéquipiers, 3 coéquipiers pour l'emmener. Il y a Christophe Riblon, il y a également Michael Chérel avec les casques jaunes sur la tête pour essayer de faire remonter Jean-Christophe Perrault dans le peloton.
Très bien, il y a encore certains équipiers de Perrault qui se trouvent dans le peloton, mais ils vont tous sans doute venir en
queue. Bah il faut redescendre.
Il
faut redescendre, mais c'est pas mal de voir des AG2R la mondiale à l'avant du peloton, parce que ça peut aussi contribuer à ralentir le rythme, à casser l'allure, comme disent les coureurs. Jean-Christophe Perrault accompagné par 4 équipiers, on est dans les voitures, et c'est une bonne nouvelle pour Jean-Christophe Perrault qui passe là sur la ligne d'arrivée à 40 km du dernier passage. Jean-Christophe Perrault qui compte une trentaine de secondes de retard. La bonne nouvelle, c'est qu'il est dans les voitures et qu'on ne pénalisera pas ce retour dans les voitures. On est à l'abri, mais devant, oui, on n'attend pas.
Il va rentrer, il est seulement à 18 secondes des dernières positions du peloton. Donc il n'y a pas le feu.
Il n'y a pas le feu à l'avant du peloton.
Beaucoup de frayeur quand même.
Il n'y a pas le feu à l'avant du peloton. L'avant qui temporise un petit peu en ce moment avec une accélération signée Sven Tuft, le champion du Canada. Merci les copains, merci les coéquipiers pour Jean-Christophe Perrault. Voilà à quoi ça sert d'être un leader, et voilà à quoi ça sert d'avoir des équipiers dévoués. On remonte les Champs-Élysées. Jean-Christophe Perrault, deuxième du classement général ce matin, est toujours dans les voitures, solidement accompagné. La bonne nouvelle, c'est que tout le monde est reparti, et que même si Jean-Christophe Perrault, juste après sa chute, se touchait un peu l'épaule, il semble disposer de tous ses moyens.
Ouais, on rappelle, Cyril, on rappelle l'an dernier la fin de tour très difficile pour Jean-Christophe Perrault, qui était bien placé au général et qui avait chuté la veille de l'arrivée sur les Champs-Élysées dans le contre-la-montre, en reconnaissant le contre-la-montre le matin, et il avait également chuté après dans le chrono, et il avait dû abandonner le Tour de France. Ce ne sera pas le cas cette année, mais quelle frayeur quand même, quelle frayeur. Et lui qui imaginait une course tranquille aujourd'hui, saluer la famille, les copains qui sont là au bord des Champs-Élysées, va devoir attaquer comme un fou pour revenir sur ce peloton.
Avec un gendarme à l'avant du peloton, Christophe, je t'interromps, un gendarme qui s'appelle Sylvain Chavanel, qui est venu chercher Sven Tuft et le Portugais Nelson Oliveira pour leur dire: attendez, il y a Perrault qui est tombé, on ralentit. Et il y a un coureur qui n'a pas écouté le gendarme. Il n'y aura pas de PV à la fin de la journée, mais il y aura peut-être une explication de texte, un règlement de compte. C'est un coureur de l'équipe Sky, il me semble que c'est Danny Pate, le Britannique, qui lui n'attend pas le retour de Jean-Christophe Perrault pour attaquer. Jean-Christophe Perrault toujours pointé à une vingtaine de secondes de l'avant du peloton. Ça devrait aller quand même.
Le premier qui a essayé d'arrêter, c'est Nibali. Hein.
Oui, c'est Nibali qui est remonté.
En personne.
Et après, comme ça est ressorti sur la gauche, Chavanel y est allé. Mais on le disait tout à l'heure, quand une course est lancée, elle est lancée.
Ouais, mais Nibali n'est pas encore le vrai boss du peloton comme l'était il y a quelques années.
J'ai l'impression que la Sky, ils sont vexés de ce qui s'est passé sur le tour, et vexés des résultats, leur manque de résultats. Et là, c'est pas très intelligent de leur part d'attaquer comme ça, sachant qu'il y a les oreillettes qui fonctionnent quand même.
Il n'y a plus de loi dans un peloton, c'est incroyable.
C'est le Far West.
Ouais.
Enfin, c'est quand même mieux que la loi qu'on avait à une certaine époque.
Évidemment,
hein.
Évidemment, Cyril.
Ça y est, c'est rentré.
Ça revient
à l'arrière du peloton pour Jean-Christophe.
Oui, parce que lorsque vous prenez un écart sur un groupe comme celui de Jean-Christophe Perrault, il faut pas le prendre sur la tête de peloton, il faut le prendre sur la queue de peloton.
Ouais. Et là effectivement, Jean-Christophe Perrault, accompagné par trois de ses équipiers, a réussi à réintégrer l'arrière du peloton. Oui. Plus de peur que de mal, un peu
vigilance,
de mal quand même. Hein, j'ai fait mal tout à l'heure.
Vigilance, parce que quand on est tombé une fois sur un circuit aussi technique et avec autant de virages que sur les Champs-Élysées et le Jardin des Tuileries, enchaîné par la rue de Rivoli et la place de la Concorde, il y a pas mal de frayeurs à se faire. Il faut qu'il reprenne confiance, Jean-Christophe Perrault, qu'il souffle, qu'il se décontracte, mais c'est un homme d'expérience, 37 ans, il sait parfaitement gérer ses coups du sort.
J'ai presque envie de dire ses émotions.
Oui, un coureur cycliste est habitué à gérer ce genre de choses.
Il faut vite qu'il
remonte. C'est vrai qu'hier, il a un peu craqué, que ce soit juste après l'arrivée, quand il a su qu'il montait sur la deuxième marche du podium, ou hier soir en fin de conférence de presse. C'est vrai que les coureurs, par nature, sont plus à l'aise sur le vélo que face au micro et face aux caméras. Il a un peu craqué, peut-être un peu troublé encore, Jean-Christophe Perrault, qui est allé tâter du bitume. Peloton à nouveau groupé, et à nouveau un coureur de l'équipe Sky qui vient d'attaquer, c'est Richie Porte, relayé à l'instant par le Danois Michael Morkov de l'équipe Tinkoff Saxo. Les coups de pétard se succèdent à 37 km de l'arrivée.
Vous savez qu'il est déjà arrivé de voir un leader tomber sur ses Champs-Élysées. C'était tout simplement Bernard Thévenet, qui était maillot jaune du Tour de France et qui allait réussir à repartir et à conserver son maillot jaune.
Tiens, Cyril a remarqué, bon, ça c'est normal, hein, c'est une mode du peloton, mais le fair play des coureurs de la FDJ.fr qui n'en ont pas profité pour attaquer. Hein, on rappelle qu'il y a quand même assez peu d'écart entre Thibaut Pinot et Jean-Christophe Perrault, mais on n'a pas vu les FDJ.fr à l'attaque. Hein.
C'est logique.
Je pense que la polémique aurait été énorme.
Oui, non, mais ils n'ont pas besoin de le faire, et d'autres vont le faire, et la course reste la course, et la course de toute façon elle va vivre, et qu'ils n'ont pas, il n'est pas nécessaire qu'ils aillent se porter en tête de peloton. En plus, si vous réfléchissez un petit peu, vous avez quand même les oreillettes, vous savez qu'ils sont repartis dans les voitures, et quand ils sont repartis dans les voitures, vous savez que de toute façon ils vont rentrer, donc ça sert à rien de vouloir durcir la course à l'avant. Ça n'est pas la même chose lorsque vous avez une course qui est partie avec des bordures et où les voitures ne sont pas intercalées entre les bordures, parce qu'elles ne peuvent pas passer, elles n'ont pas le droit de passer, et c'est tout à fait logique, et là les écarts peuvent se faire, mais pas en plus sur les Champs-Élysées où c'est très très large, et donc l'abri dans les voitures, vous pouvez venir le chercher de façon très facile, il n'y a pas de virage, donc pratiquement dans la descente des Champs-Élysées vous pouvez presque prendre 90 km/h dans la descente, dans l'abri des voitures.
36 km à parcourir, 4 hommes en tête qui n'ont pas attendu et qui attaquent. Tout le monde est rentré dans le peloton maintenant. Tous les coureurs qui ont été pris dans cette chute à la sortie du Jardin des Tuileries tout à l'heure. Le Danois Morkov, l'Australien Richie Porte, le Colombien José Serpa et un Français d'origine portugaise, Armido Fonseca, le coureur de l'équipe bretonne séchée. 11 secondes d'avance pour ce quatuor de tête à 35 km de l'arrivée.
Très bien, je le disais tout à l'heure, il y a plein de jolies filles qui viennent sur les Champs-Élysées, les fiancées, les épouses,
jeunes et moins jeunes, hein.
Oh là là, mais quel goujat ce Frédéric Adam. Marilyn, on lui fait des gros bisous, elle est toujours aussi jeune, Marilyn, qui faisait partie d'ASO il y a quelques années, qui a été notre petite maman, même si elle ménage même âge que moi. Mais non, je parle de Charline qui est à nos côtés. Charline qui est la fiancée, la copine, comment on dit,
la compagne,
la copine, pas encore fiancée. Non.
De Brian Coquart.
C'est ça, de Brian Coquart.
Voilà, Charline, quand tu vois comme ça les cours qui vont à terre à quelques mètres de l'arrivée, à quelques kilomètres de l'arrivée, ça doit faire peur, non, quand on est...
Ça fait extrêmement peur, vraiment, surtout quand on le voit à la télé, qu'on ne sait pas trop ce qui se passe, on entend des commentaires assez frustrants et qui font peur, donc oui, effectivement, c'est pas du tout rassurant, non.
Ouais, bon, en tous les cas, plus de peur que de mal pour Jean-Christophe Perrault. Alors, Brian Coquart, tu sais que c'est le favori depuis le début du Tour de France de Cyril Guimard, qui a quand même gagné combien, 7 étapes sur les routes du Tour, Cyril?
Oui, cette étape. Oui.
Voilà, qui a été le directeur sportif de Bernard Hinault, de Laurent Fignon, de Greg LeMond, et qui fait de Brian Coquart son favori. À chaque fois qu'il y a une étape qui arrive au sprint, il donne Brian comme favori. Pour l'instant, ça n'a pas souri. Est-ce que tu as pu lui parler là ces dernières heures? Est-ce qu'il est très motivé pour cette étape?
Je lui ai parlé ce matin. Oui, il est très motivé. Il aimerait une arrivée au sprint pour pouvoir essayer de se battre au sprint. Il est très motivé. Il baisse pas les bras et toujours souriant, toujours confiant.
Il est content de son premier Tour de France?
Oui, il est très content. Il y a été à la base pour découvrir uniquement. avant et finalement ça s'est plutôt bien passé en sa faveur, donc il est très content.
Voilà, on disait souvent malheureusement qu'il ne bénéficie pas d'un train pour l'amener au sprint, puisque l'équipe Europcar a plusieurs objectifs dans le Tour de France,
voilà. Mais
c'est vrai qu'avec une équipe entièrement à sa disposition, ça aurait peut-être pu sourire un peu plus.
Oui, je pense aussi. Après, les objectifs de l'équipe Europcar sont très différents et du coup c'est vrai que Pierre Roland, Thomas Vauclair n'ont pas du tout les mêmes objectifs que Brian, et c'est peut-être pour ça, peut-être que dans une autre équipe il aurait mieux réussi et fait plus de place, mais pour un premier tour c'est déjà bien, il est jeune.
Ouais. Tu vas aller l'applaudir là tout à l'heure, voilà. L'encourager,
Je vais aller l'encourager.
Il va battre Kittel, il va battre Greipel, il va tous les battre.
Bien sûr, il va tous les battre, tous un par un.
Jean-Christophe Perrault en termine avec ses moments de souffrance, là il est en train de réintégrer le peloton, on rappelle le deuxième du général qui est allé au sol tout à l'heure, maillot déchiré sur le côté gauche. Vivement que ça se termine, il reste 5 tours du circuit des Champs-Élysées, 33 km à parcourir. Charline, la vie de coureur cycliste est un sacerdoce, ce sont des sacrifices au quotidien. On ne pense pas souvent à ce qu'endurent les femmes de coureurs. Ce n'est pas encore ton cas, tu n'es pas épouse de Brian, mais tu partages sa vie depuis de nombreuses années. Est-ce que c'est une existence que tu es prête à vivre encore de nombreuses années?
C'est la question qu'on se pose toutes, je pense, surtout quand on est jeune. Après, j'ai des amis qui sont dans le même cas que moi. On se soutient moralement, mais c'est vrai que c'est pas facile, surtout pour les déplacements. Mais ça se passe très bien quand ils sont là, ils sont vraiment là, surtout l'hiver, et c'est très bien.
Alors, il nous régale, nous, observateurs. On l'appelle Brian la banane cocard parce qu'il est tout le temps en train de se marrer, la tête en haut. Tu le connais mieux que nous.
Bien sûr.
Le menton tout en haut. Est-ce qu'il est comme ça dans la vie?
Il est vraiment comme ça. Ouais. Et c'est ça qu'on apprécie énormément tous chez lui, c'est qu'il est naturel et qu'il ne change pas derrière les caméras, sur le vélo ou dans la vie personnelle.
Tu n'as jamais vécu la fête d'après-tour sur les Champs-Élysées?
Non, puisque c'est son premier tour, ça sera la première fois.
Bien sûr.
Donc à découvrir.
Tu as vécu déjà l'après-médaille à Londres.
Voilà.
Il y a quelques temps, c'était pas mal au Club France. Hein.
C'était il y a deux ans au Club France et oui, c'était une grosse soirée très bien, qui s'est très bien terminée.
Très bien, ben Charlune, on te souhaite une bonne soirée avec ton chéri et puis des vacances quand même. Non, il n'y aura
vacances.
Pas trop de vacances tout de suite derrière.
Si, on part en vacances après, ce sera au mois d'octobre, mais
d'accord.
Ce sera au mois d'octobre.
Charlune qui vit avec une star, on s'est arrêté hier soir avec l'équipe RMC dormir à Châteauroux et à l'entrée du grand hôtel qui nous a accueillis hier soir, il y avait deux posters annonçant l'arrivée de la Châteauroux Classique de l'Indre. C'est une manche de Coupe de France au mois d'août.
J'ai vu les affiches.
Et il n'y en a que pour Brian Cocard sur cette affiche. On n'avait que du Cocard dans l'hôtel. Cocard qui a remporté la Châteauroux Classique l'an passé.
Voilà, c'est bien ça.
Très bien. Merci Charline. Merci d'être venue dans le petit camion RMC. Bonne soirée, bonne vacances pour derrière. Ce ne sera pas tout de suite. Nous sommes à 31 km de l'arrivée. On va faire un point dans un instant avec Fred. À tout de suite.
RMC Intégral Tour.
Allez, au retour ici à 31 km de l'arrivée, Fred, on va faire un point complet sur cette 21e et dernière étape. Allez, courage, il reste 2 heures encore.
Oui, même pas. Assis derrière, il faudra aller aux interviews, évidemment, et on va peut-être prolonger la soirée, évidemment. 31 km à parcourir, un peu plus de 4 tours du circuit des Champs-Élysées. 4 hommes à l'avant de la course avec 25 secondes d'avance sur un peloton qui, pour l'instant, contrôle. On a là le Danois Michael Morkov de l'équipe Tinkoff Saxo, José Serpa, la gueule colombienne du peloton, le coureur de la Lamprey, et Richie Porte, un Australien, le coureur leader de substitution chez Sky, qui est un peu passé au travers de son Tour de France. Richie Porte, qui est le troisième de ce quatuor, le dernier, c'est un Français, Armindo Fonseca, coureur de l'équipe Bretagne CG, qui va vite au sprint, mais qui préfère tenter sa chance aujourd'hui sur les pavés des Champs-Élysées, tenter sa chance de loin, échapper derrière. Eh bien, l'avant du peloton est mené par les Lotto Bellisol du champion d'Allemagne André Greipel, les maillots rouges qui veulent faire triompher leur champion d'Allemagne André Greipel, qui a déjà remporté une étape sur ce Tour de France et qui va tenter de doubler la mise. Morkov, Porte, Serpa et Fonseca, 23 secondes d'avance à 30 km de l'arrivée. À l'instant, un sprinter est en train d'être dépanné. Il s'agit du Norvégien Alexander Kristoff, déjà double vainqueur d'étape sur ce Tour de France. Il a raison de crever à 30 km de l'arrivée, Alexander Christophe, parce que dans quelques instants, il ne sera plus temps de lâcher la moindre énergie en vue d'une arrivée au sprint.
23 secondes d'écart pour les 4 hommes de tête sur l'avant-garde du peloton. Et on vous rappelle que Jean-Christophe Perrault s'est fait une grosse frayeur tout à l'heure. Il a chuté, il est resté quelques secondes à terre avant finalement de reprendre son vélo. Il a réussi à réintégrer l'arrière du peloton. Donc plus de peur que de mal pour Jean-Christophe Perrault qui sera bien deuxième du Tour de France tout à l'heure à l'arrivée.
RMC Intégral Tour, Christophe Sessieux.
Et on se rapproche de l'arrivée finale de ce Tour de France à moins de 30 km avant de franchir une dernière fois la ligne sur les Champs-Élysées. Une dernière fois donc pour Vincenzo Nibali et pour tous les autres. 4 hommes sont donc échappés. Ils comptent 20 secondes d'avance sur le reste du peloton. 4 hommes qui sont Richie Porte, Morkov, Serpa et Fonseca. On se fait soigner à l'arrière du peloton, me semble-t-il, avec l'un des équipiers de Jean-Christophe Perrault qui a chuté tout à l'heure. Mais il n'est pas le seul de l'équipe AG2R à avoir été jeté à terre.
Oui, c'est Samuel Dumoulin effectivement qui lui a mis beaucoup plus de temps à remonter sur son vélo que Jean-Christophe Perrault. Samuel Dumoulin qui n'a pas aidé du coup Perrault à réintégrer l'arrière du peloton. Ce fut une alerte chaude tout de même. On s'est emballé, c'est vrai, mais il y avait le feu dans la maison AG2R parce qu'il y aurait eu davantage de bobos. Eh bien, vu la vitesse à laquelle ça roulait devant, il y avait vrai danger. Cyril, tu te rappelles de coups de chaud comme ça sur les champs alors que l'on croit que toutes les positions sont figées, que les vainqueurs, les lauréats des différents classements, les places d'honneur sont d'ores et déjà attribuées. Est-ce que tu as déjà eu un coup de chaud comme ça, un coup de sueur dans les tout derniers moments du Tour?
Personnellement, non, mais on l'a eu avec, je l'évoquais tout à l'heure, hein, Bernard Thévenet qui avait chuté sur ce circuit final alors qu'il était maillot jaune et que la course était également lancée et qu'il y avait d'ailleurs une échappée qui est allée au bout et donc c'était quand même très très chaud. C'est à partir d'ailleurs de ce moment là qu'on a commencé, parce qu'il pleuvait, qu'on a commencé à réfléchir au fait de prendre les temps s'il pleuvait à l'entrée des Champs-Élysées ou du moins au premier passage sur la ligne, de façon à éviter des drames sur ces pavés. Alors pour une raison, enfin pour une deuxième raison, qui est que s'il pleut sur les pavés des Champs-Élysées, ça devient une patinoire. Vous savez que quand même le reste de l'année, il ne passe là que des véhicules automobiles, et que ces véhicules laissent tomber sur ces pavés un maximum de résidus de combustion de gasoil et d'essence, et que dès que vous mettez de l'eau, ça devient une patinoire et qu'il valait mieux éviter effectivement le carnage.
Mais ce ne sont pas quand même des pavés aussi durs que ceux de Paris-Roubaix, Cyril.
Non, mais sur ceux de Paris-Roubaix, il n'y a pas de gasoil.
Oui, c'est sûr que dans,
alors que là,
dans
vous ne maîtrisez Rondéa, pas, et même là, quand vous regardez Jean-Christophe Perrault, il part sans raison apparente, puisque tout le monde est passé à tous les tours, sauf qu'il a dû passer sur quelques centimètres carrés où il y avait un petit peu plus de résidus, et sa roue avant a décroché. De toute façon, là, vous ne maîtrisez plus sur les pavés, même si ce sont des petits pavés, et même s'ils sont sympathiques pour les touristes.
Voilà, sympathiques pour les touristes, mais pas pour les coureurs. 26 km 500 de l'arrivée, Fred, et toujours nos quatre hommes en tête, nos top course.
RMC Top Course.
Avec effectivement un peu plus de 3 tours de circuit des Champs-Élysées, 26 km à parcourir pour le quatuor de tête, le Danois Michael Morkov, l'Australien Richie Porte, le Colombien José Serpa et le Français Armindo Fonseca de l'équipe bretonne séchée. Beaucoup d'audace de ces quatre-là qui comptent 20 secondes d'avance sur un peloton conduit par les équipes de sprinteurs. Les Lotto Bellisol, les maillots rouges du champion d'Allemagne André Greipel ont pris les commandes à l'instant relais par un coéquipier de Marcel Kittel, le déjà triple vainqueur d'étape sur ce Tour de France. Marcel Kittel qui est le dernier lauréat sur les Champs-Élysées l'année dernière quand il avait remporté ses 4 étapes. Marcel Kittel qui compte bien doubler la mise.
Olivier Schwartz nous a rejoint dans le camion RMC, reporter d'RMC Sport sur ce Tour.
Morceau de reporter,
le facochère, c'est son surnom sur ces étapes du Tour de France, vous ne saurez pas pourquoi. Ça va Olivier, tout va bien?
Ça va, jusqu'à présent ça allait.
Surnom à l'antenne.
Ouais, très bien, parfait. Hein, écoute,
parfait. En tout cas,
la vengeance,
c'est un sacré coursier celui-là. Olivier, tu as une petite info concernant Vincenzo Nibali.
Oui, parce qu'on parlait des familles qui évidemment rejoignent les Champs-Élysées pour cette dernière étape. On vient de croiser le papa de Vincenzo Nibali, venu d'Italie avec le fan club de Nibali, notamment. Alors ils arborent de magnifiques maillots jaunes créés pour l'occasion. À l'arrière du maillot, un magnifique dessin d'un requin, évidemment, hein, puisque c'est
le requin de Messine.
Voilà le surnom de Vincenzo Nibali. Et puis à l'avant, ce jeu de mots qu'on a pu inventer à l'antenne ou pas, Cannibali, évidemment pour fêter les 4 victoires d'étape du maillot jaune qui va évidemment remporter son premier Tour de France dans quelques minutes.
Merci pour cette information. Il y en a qui bossent, Fred, t'as vu, qui ramènent des infos et tout, hein.
Oui, c'est
le principe du facochère, hein.
Il ramène. Ça pour ramener.
On a retrouvé notre motard, enfin pas notre motard, notre passager de la moto. Il est là, il est descendu, son Tour de France est terminé. Ça va, Georges?
On est beaucoup plus à l'aise ici, hein.
Comment ça?
On a vu qu'il risquait de pleuvoir, alors on a décidé de s'arrêter.
Très bien. Parfait. Georges, tiens, les images que tu garderas de ce Tour de France, ton meilleur souvenir sur ce Tour de France 2014, vu de la moto, c'est quand même pas la même chose que vu du camion.
Le pire déjà, c'est le jour où on a bloqué le micro-interview dans la roue arrière de la moto sur la route de Lille, hein, ce qui a bien failli arrêter notre Tour de France dès la 4e étape. La moto RMC qui a failli être non partante pour la 5e étape. Le meilleur souvenir, en Angleterre, je pense, la ferveur que l'on a vue sur les 3 premières étapes, c'était du jamais vu, même en France. C'est vrai que ça ressemblait à ce qu'on voit là sur les Champs-Élysées, mais pendant 3 jours et pendant toutes les étapes, pendant toute la durée, pendant les 200 km parfois, même quand on était dans la campagne, voire plusieurs rangées de spectateurs, comme ça, c'était incroyable. Les gens nous tapaient dans la main, ils étaient derrière les barrières et ils nous tendaient les mains comme ça pour faire des high five, c'est des tapements 5 et la police anglaise.
Et puis les selfies aussi, un paquet de selfies sur les étapes anglaises, hein.
Voilà. Et voilà. Et puis après il y a eu le jour de les chutes de Christopher Froome, évidemment, où quand il a chuté en arrivant vers Lille, on a vu le visage de Dave Brailsford, le manager, qui nous laissait bien entendre très rapidement que ça sentait pas bon et que le tour était en train de basculer pour Christopher Froome. Voilà les
images. On va écouter dans quelques minutes, nous sommes ensemble jusqu'à 20h, donc on a un peu le temps, les grands moments de ce Tour de France. Tout à l'heure on a vécu le maillot jaune de Tony Gallopin et sa victoire d'étape qui a été tout simplement incroyable. On était avec Marion Rousse qui était tout ému de réécouter ça. Merci monsieur Georges, à tout à l'heure. Je crois qu'il est temps que le tour s'arrête pour Georges, hein. Vous avez vu sa voix, c'est en train de partir
C'est fait pour tenir 3 semaines, hein.
Pas plus, au-delà c'est terminé.
Un petit mot avant cela de la situation de course. Ils ne sont plus que 3 à l'avant de la course à 23 km de l'arrivée, 3 coureurs. Il n'y a plus le français Armindo Fonseca de l'équipe bretonne Séché échappé. Il y a là le danois Morkov, Richie Porte l'australien et José Serpa le colombien. Ils font de la résistance à l'avant du peloton. Ça roule très très vite avec encore des coureurs qui tentent de tromper la vigilance de l'équipe Lotto Bellisol. Ça roule à plus de 60 km/h sur les Champs-Élysées.
Ok, 23 km de l'arrivée, donc 12 secondes d'écart pour nos hommes de tête, Cyril. 12 secondes, ça se réduit. Alors le scénario est toujours le même, hein, sur les Champs-Élysées. De temps en temps on parvient à prendre jusqu'à 30 secondes d'avance, mais derrière, quand le peloton se met à rouler, les écarts redescendent. Et franchement, comment faire? Est-ce qu'il y a une méthode? Est-ce qu'il y aurait une méthode, toi le druide qui a inventé toutes les tactiques de course ou presque, quelle serait la méthode pour échapper à la vigilance du peloton sur les champs?
Il n'y en a pas, il suffit tout simplement qu'à un moment ou à un autre les circonstances de course pourraient faire en sorte qu'une échappée arrive. Je vous le disais, en 77 c'est ce qui s'est passé parce qu'il y a eu une chute. Donc en dehors de ça, les équipes de sprinters sont trop bien organisées pour pouvoir être pris en défaut. On ne laisse jamais un écart à plus de 20 ou 30 secondes, et moyennant quoi, sur les 2 derniers tours, on va chercher comme on veut. La seule possibilité qu'il y aurait, c'est un petit gafouillage aux 700 ou 800 mètres, un coureur qui sort très vite de derrière et qui ne serait pas repris par les premiers éléments du peloton.
Ok, bah on verra tout à l'heure. 22 km de l'arrivée donc, et plus que 13 secondes d'avance pour nos 3 hommes de tête. On se retrouve dans quelques instants, on va avancer les infos de 18h pour ne pas rater l'arrivée finale de ce Tour de France 2014. À tout de suite,
hein. RMC Intégral Tour.